il est révélé dans cette, il est révélé dans ces chapitres-là. Et vous allez voir, et Farid l'a dit aussi, que c'est vraiment riche. Alors, je vous propose aussi ce matin qu'on ne le fasse pas dans l'ordre. Hein, on ne commence pas par 14, on finit à 17, mais qu'on jongle dans les différents passages. Et puis, on va donc commencer ce matin par Matthieu 15 et non pas Matthieu 14. Et puis, avant de commencer Matthieu 15, on va juste poser un tout petit peu de contexte et puis on va aller à la fin de Matthieu 14. Alors, pour vous poser le contexte de la fin de Matthieu 14, Jésus, non, non, 14, Jésus, il vient d'accomplir de très nombreux miracles et guérisons. Il a multiplié des pains et des poissons pour une foule de 5 000 hommes. Il a marché sur l'eau pour traverser un lac et rejoindre ses disciples dans une barque. C'est la vie normale, hein, quoi, de tout un chacun. C'est ce qu'on fait nous toutes les semaines, bien sûr. Donc voilà le contexte de la fin de Matthieu 14. Et puis à partir du verset 34, on peut lire: Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Waouh! 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 Quelle personne on a là dans Jésus, où le simple fait de toucher son vêtement amenait la guérison. Quelle puissance, quelle démonstration de la puissance et en même temps de l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ dans ce passage-là. Et c'est dans ce contexte où je dirais qu'il y a presque un peu on pourrait parler d'une euphorie, tellement c'est grandiose ce qui est en train de se passer. Donc, bien sûr, la nouvelle, elle est arrivée jusqu'à Jérusalem. Et on a des pharisiens qui arrivent, j'allais dire sans se presser, mais si, en se pressant, pour rencontrer Jésus et pour venir de nouveau s'opposer à lui au moyen de la tradition. Alors je dis de nouveau parce que si vous n'avez pas entendu l'excellent message de Farid la semaine dernière, je vous encourage vraiment à l'écouter ou à le réécouter parce il en parle en partie. Et donc qu'est-ce qu'ils font ces pharisiens et puis pourquoi j'ai envie de commencer par là ce matin? Vous allez le voir un petit peu après. Donc Matthieu 15, on y est cette fois-ci à partir du verset 1 et puis on va lire un petit peu ensemble. Alors, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus, qui était en train de guérir plein de gens, hein, et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. J'ai envie de dire que c'est un petit peu iconoclaste cette remarque à cet endroit-là. On a presque envie de dire à celui qui est complètement mouillé parce qu'il vient de sauver une fillette dans la Seine, qu'en fait, il n'avait pas le droit de se baigner à cet endroit-là. Mais bon. Donc, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas, et donc de cette manière-là, ils transgressent la tradition des anciens. Et Jésus répond aux pharisiens et aux spécialistes de la loi en leur disant: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit. C'est Dieu qui dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Grave erreur. Hypocrite, leur dit Jésus, et là il cite Ésaïe. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Et puis, un peu plus loin, Jésus conclut avec ses disciples en disant: En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Amen, on est d'accord avec ça, je crois. Quel est mon cœur et non pas qu'est-ce que je fais? Et donc Jésus, il est en train de reprocher là aux pharisiens d'élever ce qu'on appelait la loi orale, le Talmud, la Mishnah, au même niveau que la parole de Dieu. Parce que quelque part, ils étaient en train de reprocher aux disciples quelque chose où la parole de Dieu ne dit absolument pas l'inverse. Elle dit pas le contraire. Et ils étaient en train d'élever le Talmud et la Mishnah au même niveau que la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Ou alors, on pourrait le dire autrement, ils étaient en train de rabaisser le commandement de Dieu au même niveau que la tradition orale qui était transmise. Et donc, dans cette confrontation avec les pharisiens, Jésus, il est juste en train de rappeler quelque chose d'essentiel et quelque chose qu'on doit se rappeler nous aussi, la parole seule a toute autorité. Et elle est supérieure à tout le reste. Et c'est important, quand on prend notre Bible dans les mains, de reconnaître ce livre comme étant cette parole de Dieu qui a toute autorité et qui est supérieure à tout le reste, qui est supérieure à tout le reste que je vais pouvoir entendre, à tout le reste que je vais pouvoir lire. Elle est bien supérieure. Et c'est ça que rappelle Jésus. Et puis Jean, il nous dit, on l'a dit aussi dans les messages avant, hein, que la parole, c'est Jésus. Et donc, quelque part, Jésus, il est en train de dire aux pharisiens qu'ils ne peuvent pas faire l'impasse de passer par lui pour venir à Jésus. Il est en train de leur dire que je suis bien supérieur à la tradition. Je suis bien supérieur même à ce qui est très ancien, parce que je suis la parole de Dieu et parce que je suis cette autorité supérieure. Et je crois que c'est vraiment bon de se le rappeler pour nous aussi, même si on n'est pas des pharisiens ou des spécialistes de la loi aujourd'hui, de nous souvenir en fait que la parole, ben, c'est l'autorité à laquelle on se soumet. Et que si on veut s'y soumettre, ça veut dire qu'il faut qu'on y trouve du plaisir à plonger dedans et à l'étudier, comme Rémi Gomez nous y a encouragé il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Là aussi, je vous invite à écouter ce message-là. Et en parallèle de ça, ça veut dire qu'on ne doit pas non plus prendre pour évangile tout ce qui est enseigné partout. Aujourd'hui, il y a énormément d'enseignements que vous allez trouver sur le net. Mais je vous invite, les amis, à soumettre ça à la parole de Dieu. À soumettre toujours ce que l'on entend à la parole de Dieu. Ne prenons pas pour évangile ce qu'une église enseigne, et même ce que j'enseigne ce matin. Confrontez-le à la parole, c'est elle qui fait autorité. Ne fondons pas notre vision de qui est Dieu sur la base de ce qu'on pense, de ce qu'on accepte, ou de ce qui nous semble acceptable que Dieu soit. J'ai eu une discussion avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me disait, bien sûr, la Bible n'était pas ouverte, et ça n'a pas dérangé que la Bible ne soit pas ouverte, mais qui me disait, moi je crois que j'ai du mal à concevoir que Dieu puisse être suffisamment méchant pour envoyer des gens en enfer. Parce que moi je crois que Dieu, il est amour, et que s'il est amour, il n'y aura pas d'enfer pour les gens. Mais bien sûr, cette personne-là, elle me parlait de sa conviction sans avoir la parole de Dieu ouverte. Et j'ai dit, mais ouvrons la parole de Dieu ensemble. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à ça? Que dit la Bible? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu fait autorité. Et donc, si un passage ne me convient pas, ou s'il ne vous convient pas dans la parole, eh ben, je dois d'abord commencer par remettre en question ma lecture, mon niveau de compréhension. Est-ce que j'ai bien compris finalement ce passage? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il y avait derrière, ce qui était sous-jacent, le contexte? Est-ce que je l'ai compris dans son ensemble ou est-ce que c'est moi qui me méprends dessus aujourd'hui? Et je dois faire attention à ne pas mettre ma croyance au même niveau que la parole pour ne pas tomber dans le même piège que les pharisiens. Faisons attention, les amis, des fois, à ce que nous croyons et qui n'est pas bibliquement fondé. Jésus nous le rappelle là. Il l'a rappelé aux pharisiens, mais quelque part, il nous le rappelle à nous. Et c'est quelque chose, moi, que j'apprécie énormément dans notre famille d'église Newground et plus globalement, notre famille Nouvelle Frontière par le monde dont fait partie Newground, c'est que c'est une famille d'église dans laquelle tout est ramené à la parole en permanence. Je me souviens de discussions qu'on a pu avoir, on discute de quelque chose, c'est tout de suite, que dit la parole? On est confronté à un problème, que dit la parole? On veut évaluer une prophétie dans nos vies, que dit la parole? Est-ce que ce que je vis, ce que je pense, ce que je crois, ce à quoi je suis confronté, est-ce que ma manière de résoudre tout ça est conforme à la parole? Alors j'espère que vous comprenez bien et que vous l'entendez, hein, c'est la parole fait autorité et c'est quelque chose, on ne peut pas faire l'impasse. Voilà. Et quand on sait que Jésus est la parole, on ne peut pas faire l'impasse de passer par Jésus-Christ ce matin. Et donc pour revenir au passage de Matthieu 15 qu'on vient de lire, Jésus, on a dit, hein, il cite Ésaïe 29, et puis j'aimerais bien qu'on regarde Ésaïe 29, ce petit passage-là, c'est les versets 13, et puis on va prendre le verset 14 aussi, parce que je crois que c'est une vraie clé pour comprendre les quelques chapitres qu'on va survoler ce matin. Donc dans Ésaïe 29, au verset 13, donc c'est ce que Jésus a cité, hein, le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Donc Jésus pointe au cœur, Ésaïe pointe au cœur et non pas sur ce que nous savons ou sur ce que nous laissons entrevoir. Et il y a ce verset 14 qui suit et qui va complètement expliquer le contexte des chapitres dans lesquels nous allons passer ce matin. C'est pourquoi, à cause de ce qu'on vient de dire juste avant, c'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Ouf. Je continuerai d'étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte de confondre la sagesse du monde. De sorte de confondre la sagesse du monde. Et c'est ce qui se passe dans ces quelques chapitres. Et Paul, il cite ce verset 14 aussi, et du coup, j'aimerais bien qu'on lise dans 1 Corinthiens ce passage où Paul, il nous cite Ésaïe 29, 14, et qui nous permet, qui nous éclaire sur la manière, en fait, dont Dieu étonne le monde. Dont Dieu étonne pour confondre la sagesse des sages. En effet, donc c'est 1 Corinthiens 1, 18 à 25 pour ceux qui veulent suivre, en effet le message de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, et c'est là qu'il cite, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et Paul continue, où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et ça nous éclaire sur la manière dont Dieu a choisi d'étonner le monde, de confondre no notre apparente sagesse humaine, notre intelligence humaine. On est d'accord que Dieu n'est ni contre la sagesse, ni contre l'intelligence. Au contraire, dans la mesure où elle est soumise à lui et à sa parole. Et donc, cette folie de Dieu, effectivement, est-ce que c'est cloué sur une croix et puis mis dans un tombeau qui a été scellé qu'on s'attend à trouver le Messie tout-puissant qui est en train de mener à bien le plan du Père pour le salut de toute la création? Est-ce que c'est là qu'on l'attendait? Ou est-ce qu'on l'attendait avec des chars installés sur un trône à Jérusalem, en train de régner parmi le peuple d'Israël? Où est-ce qu'on attendait Jésus? Où est-ce qu'on attendait à ce que ce plan s'accomplisse? Il a plu à Dieu d'étonner le monde par des merveilles, par des miracles, et de confondre la sagesse, de confondre ce à quoi nous nous attendons. Parce que pourtant, c'est bien sur la croix qu'on va trouver ce Messie tout-puissant. Et c'est bien là qu'il va être victorieux également. Donc Jésus, il est là où on ne l'attend pas. Et c'est un des premiers points que j'aimerais ouvrir ce matin dans ces quelques chapitres qu'on va traverser. Donc on l'a dit, hein, dans Ésaïe 29, on a Ésaïe qui dit, je continuerai, c'est Dieu qui parle, je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse des sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Et c'est clairement ce qui se passe là. Jésus, pendant quatre chapitres, 14, 15, 16 et 17, il étonne le peuple par toutes les merveilles, par tous les miracles qu'il est en train d'accomplir. Il est en train de confondre la sagesse humaine, à la fois celle des pharisiens et des spécialistes de la loi, mais aussi celle de ses disciples. Ses disciples, ils sont complètement largués dans ces quelques chapitres. On a vu d'autres chapitres où les disciples, ils arrivaient encore à suivre Jésus. Là, je vous garantis, ils sont largués, ils ne comprennent pas. Et il a plu à Dieu que ce soit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces quelques chapitres? On trouve Jésus qui guérit. Et on trouve énormément de guérisons de toutes sortes. Et on trouve en fait un témoignage de puissance qui est absolument incroyable. On ne nous parle pas juste d'un rhume qui s'arrête ou d'un mal de dos qui s'estompe. On nous parle d'aveugles qui voient, on nous parle de paralytiques qui marchent, on nous parle de sourds qui entendent, on nous parle en fait d'une démonstration puissante de puissance, j'ai envie de dire, pour mettre l'emphase dessus. C'était pas rien, c'était pas anodin. Et c'est aussi pour ça que les foules tout entières accouraient, ne serait-ce que juste pour pouvoir toucher son vêtement. Combien de fois j'ai passé des heures à prier sans voir la guérison arriver. J'aimerais que quelqu'un puisse venir juste toucher le bout de ma chaussure et puis être guéri. Ce serait tellement merveilleux, tellement plus simple. Je pense que vous aussi, hein, j'imagine. Mais ça fait partie des mystères de Dieu. Pourquoi ça se passe comme ça hein, dans un temps de l'histoire? Pourquoi ça se passe comme ça avec Jésus? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça tout le temps, en tout lieu, même si les démonstrations de puissance absolue, elles continuent d'être là aujourd'hui. Et on peut célébrer dans notre Église, et on peut célébrer dans l'Église, tout autour du globe, une démonstration de puissance de Dieu qui est régulière et des maladies qui sont guéries instantanément, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, on voit tout ça et on le voit au milieu de nous. On n'a pas vu d'aveugles qui voient encore ici, mais ça va venir. Et donc, dans ce contexte de puissance, les disciples, ils n'y comprennent pas grand-chose. Dans Matthieu 17, on nous dit qu'ils sont incapables de guérir un garçon épileptique. Et Jésus, il les reprend là-dessus. Il les reprend sur leur manque de foi. Voilà, on leur a amené un garçon épileptique, ils n'ont pas été capables de le guérir, et, alors que Jésus leur avait donné pouvoir sur les maladies, les infirmités, pouvoir sur les démons, il les avait envoyés. Donc ils n'ont pas pu faire ça, et donc la maman, elle vient à Jésus en disant « Tes disciples, ils n'ont pas pu, est-ce que tu peux ?» Bien sûr, Jésus, il a pu guérir cet enfant épileptique sur la foi de cette femme. Cet enfant a été guéri. Et Jésus reprend ses disciples en leur disant, mais vous n'avez rien compris, vous manquez de foi encore. Qu'est-ce qu'il vous faut encore comme signe que vous avez, pas déjà vu, qui démontre que je suis capable de choses complètement incroyables, que Dieu agit avec puissance. Et vous, vous manquez encore de foi, il va en falloir combien? Jésus est en train de pointer vers cette réalité qui fait que les disciples ne sont pas sur la même longueur d'onde que lui. On a clairement les disciples qui sont là, et puis on a Jésus qui est là à côté, mais ce n'est pas le même chemin. Il se passe deux trucs différents là. Et donc ça amène de l'incompréhension. Donc on va poursuivre. Ce Jésus ne fait pas que des guérisons. Mais Jésus, par deux fois, il multiplie des pains et des poissons. Une fois dans Matthieu 14, où il a nourri 5000 hommes, on nous dit, plus les femmes et les enfants, donc je ne sais pas quelle taille de foule ça pouvait faire, mais c'était absolument énorme. Il a nourri tout ça à partir de 5 pains et 2 poissons. Et la Bible nous dit que tous furent rassasiés. Incroyable, Jésus. Et puis un chapitre plus loin, dans Matthieu 15, même chose, 4000 hommes, une foule de 4000 hommes que Jésus ne voulait pas renvoyer sans avoir mangé, parce que ça faisait 3 jours qu'ils étaient là à le suivre et à l'écouter. Et il a dit, je vais les nourrir, je vais donner. Alors pareil, il y avait des pains, il y avait des poissons, il y avait 7 pains, je crois, et quelques poissons. Et même chose, il remercie son père pour ce qu'il y a, même si c'est peu. Et puis le miracle agit, il multiplie. Et tous mangent, ils sont rassasiés et il y a des restes. Par deux fois, ça se passe comme ça. Et moi, ce passage-là, il me parle énormément. Et j'espère qu'il va vous parler aussi. Moi, ça me parle de ne pas attendre d'avoir beaucoup dans mes mains pour agir. Ça me parle de toujours remettre à Dieu ce que j'ai. Ça me parle d'avoir confiance en lui plus qu'en moi-même. De ne pas regarder où j'en suis aujourd'hui dans ma foi, où j'en suis dans mes dons, où j'en suis dans ma connaissance de la parole de Dieu, mais où j'en suis juste de ma confiance dans le fait que lui peut multiplier tout ça. Et ça me parle de ça, et j'espère que ça vous parle aussi de ça. Et j'espère que, du coup, ce matin, s'il y en a un parmi nous qui pouvait se sentir un peu exclu de qu'est-ce qu'il pouvait faire avec Dieu, ils comprennent qu'il n'en est pas exclu du tout. On n'est jamais trop petit. Je vois qu'il y a des enfants devant les écrans aussi, et je m'adresse à vous, les enfants. Vous n'êtes pas trop petits. Jamais, jamais trop petits. Je vois qu'il y a des jeunes convertis qui sont là aussi sur les écrans. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune converti que vous n'avez pas quelque chose à donner. Jésus multiplie au travers de chacun d'entre nous. On a juste à faire confiance. Et à donner. Et je répète encore une fois, ayons confiance en lui plus qu'en nous-mêmes. Nous faisons ce que nous pouvons aujourd'hui et nous croyons que Jésus multiplie au travers de ça. Donc voilà un signe, je trouve, que Jésus nous donne aujourd'hui au travers de ces deux multiplications qu'il y a en deux chapitres successifs. Mais là encore, les disciples ne comprennent pas. Dans Matthieu 14, ils commencent à regarder leur incapacité à résoudre le problème. Mais Seigneur, on n'a pas assez pour acheter suffisamment à manger pour 5 000 hommes. C'est juste pas possible. On peut se dire, ok, c'était la première. Mais dans la deuxième multiplication, un chapitre plus loin, ils recommencent encore. Ils cherchent à résoudre le problème par eux-mêmes. Ils ont complètement oublié que Jésus, enfin, je ne sais pas comment c'est possible. Ils ont apparemment oublié que Jésus vient de multiplier des pains et des poissons pour nourrir une foule entière. Et ils sont là avec une nouvelle foule en disant à Jésus, mais comment tu veux qu'on les nourrisse? On n'a rien, on n'a que quelques pains et des poissons, ça ne va pas être possible. Il faut que tu les renvoies chez eux. Et Jésus leur reproche ça. Il leur reproche ça. Il leur reproche d'avoir oublié qu'il leur a déjà montré un chapitre avant qu'il était capable d'agir différemment de ce que nous pensons. Parce que c'est ça que se plaît à faire Jésus. Il n'est pas là où on l'attend. Pas toujours en tout cas. Et il agit différemment de ce qu'on attend aussi. Et c'est ça, et dans Matthieu 16, en fait, Jésus reproche à ses disciples d'avoir oublié Matthieu 14 et Matthieu 15 dans une autre situation à laquelle ils sont confrontés. Et en fait, on a de nouveau, dans la dimension de la multiplication, les disciples qui sont là et Jésus qui est là. Et ils ne sont juste pas encore sur le même chemin. Il y a encore un décalage de longueur d'onde là, en termes de compréhension de ce que Jésus est en train de faire avec eux. Alors, un troisième point, que là où est Jésus et là où on ne l'attend pas non plus, c'est au moment où Jésus marche sur l'eau. Hein, il a renvoyé ses disciples sur la barque, donc ils traversent le lac avec une barque, et Jésus a dit je vous rejoindrai de l'autre côté. Et donc Jésus, en pleine nuit, il se met à marcher sur l'eau et puis à rejoindre ses disciples directement au milieu du lac dans la barque. La vie normale, encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les disciples, ils n'attendaient pas du tout Jésus sur ce chemin-là. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus puisse faire quelque chose comme ça. Et on nous dit qu'ils sont effrayés, ils sont saisis de crainte, pensant que c'est un fantôme ou un esprit ou je ne sais pas quoi qui était en train d'arriver. Donc ils se mettent à crier jusqu'à ce que Pierre dise « mais ça doit être Jésus ». Et il dit « mais pour le savoir, c'est ordonne que je vienne et je viendrai ». Il se confiait dans la parole, dans le fait que Jésus allait parler et qu'au travers de sa parole, il allait le reconnaître et qu'il allait pouvoir le suivre. Et là, clairement, dans ce passage-là, on est encore une fois avec Jésus qui est à un endroit où les disciples étaient à un autre endroit et ils ne s'attendaient pas à rencontrer Jésus sur ce chemin-là. Il y a un décalage de longueur d'onde. Il y a un écart de chemin entre le chemin sur lequel Jésus est en train de marcher sur cette terre, dans le temps où il était là, et le chemin sur lequel les disciples étaient en train d'essayer de le suivre. Il y avait un décalage. Vous l'avez, ce décalage? C'est bon? Il est matérialisé pour tout le monde? On l'a eu avec les guérisons, on l'a eu avec la multiplication, on l'a de nouveau avec le fait que Jésus marche sur l'eau. Mais ce qui est intéressant d'observer dans ces chapitres, et qui fait le lien finalement entre toutes ces choses-là, c'est que alors qu'on a des chapitres où il se passe plein de choses. Hein, on a dit il y a des guérisons, il y a des multiplications, des miracles qui sont complètement incroyables, on a un Jésus qui marche sur l'eau, hein, clairement, je veux dire, ça n'a rien à envier aux Avengers. Et au milieu de ces chapitres où il y a plein de choses qui se passent, c'est intéressant de voir le nombre de fois où Jésus passe du temps seul pour prier son Père. Et là, on a une clé. On a une clé et on retrouve ce schéma, en fait, tout au long de ces quatre chapitres. On retrouve Jésus qui passe du temps seul à prier son Père, puis qui agit de manière complètement inattendue. Mais inattendue pour qui? Pour lui? Pour son Père? Non, inattendu pour ses disciples, inattendu pour les pharisiens, inattendu pour les foules qui le suivaient, inattendu pour ceux qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et ça nous parle de notre manière de marcher et de notre manière de suivre Christ aujourd'hui. Est-ce qu'on veut que le Père y continue d'étonner le monde par ses merveilles et ses miracles au travers de nous? Alors si nous voulons ça, comme Jésus, passons du temps à prier et à chercher sa face. Et alors on agira de manière inattendue pour le monde. Et l'intimité de Jésus avec son Père, voilà ce qui se passe, hein, elle fait qu'il ne marche pas, Jésus, selon les principes du monde, selon une pensée humaine. Mais Jésus, alors qu'il passe du temps dans la présence de son Père, il marche selon les règles et selon les valeurs d'un autre royaume. Son royaume, ce royaume qu'il est en train d'annoncer. Et c'est sur cette longueur d'onde-là que Jésus il est en train de marcher. et où il appelle ses disciples à venir. Sortez, venez à moi, venez dans mon royaume. Jésus ramène à lui, hein, il ramène à la parole, on l'a vu dans ces chapitres. C'est la parole à laquelle on soumet nos vies, mais au travers de lui, Jésus nous ramène au Père. Jésus ne nous ramène pas à lui pour lui, il nous ramène à lui pour nous ramener au Père, il nous ramène à cette intimité. Alors saisissons ce cadeau de la présence de Dieu parmi nous. C'est un vrai cadeau que Jésus nous offre et un vrai moyen de marcher à la suite de Jésus. Il n'y en a pas d'autre hein, pour rassembler les longueurs d'onde, je peux vous le dire. Et on va poursuivre encore, parce que dans ces chapitres, Jésus y pointe encore vers deux vérités qui le concernent et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête rapidement sur ces deux vérités-là. La première dont je voudrais qu'on parle, c'est après les multiplications des pains. Alors, ce n'est pas dit dans Matthieu, mais quand Jean relate les mêmes événements, Jean nous relate cette discussion entre Jésus et ses disciples où Jésus leur dit dans Jean 6, 35, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et Jésus, là, il est déjà en train d'annoncer son corps brisé et son sang versé. Il est déjà en train de faire écho à ce qu'il va leur dire au moment où il va introduire la scène en disant « Faites ceci en mémoire de moi », en disant « Prenez le pain, ceci est mon corps, mangez-le. Buvez ce vin parce que c'est mon sang. » Buvez-le, mangez, buvez, parce que je suis une source de nourriture pour vous. Et Jésus, il est en train d'expliquer à ses disciples qu'il est la vraie nourriture qui rassasie l'âme. De la même manière que dans ces multiplications, on n'avait pas juste un saupoudrage de pain et de poisson pour tout le monde qui fait que chacun avait un petit peu et suffisamment juste pour ne pas tomber en retour en chemin. On nous dit que tous ont été rassasiés. Rassasiés. Ils ont été pleins et il y a même eu des restes. C'est que non seulement la Bible, elle décrit que quand Jésus multiplie, c'est plein, mais la Bible, elle nous dit que ce plein, il est encore plus plein. Il y a même encore des restes. Ça va au-delà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la manne qui était donnée du ciel pour le peuple juif quand ils étaient dans le désert. Joël a fait un message là-dessus. Cette manne qui est donnée du ciel, qui est répandu gratuitement, qui était là tous les matins, qui pouvait juste être cueilli par le peuple et avec lequel le peuple pouvait se nourrir dans un endroit où sinon il n'y avait absolument rien, eh bien cette manne, elle préfigurait juste le vrai pain qui vient du ciel pour toute l'humanité. Et c'est Jésus. Et voilà pourquoi Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Il y avait déjà des signes. Ça leur avait déjà été annoncé. Ça avait déjà été dit. Et Jésus, il va plus loin. Il leur dit, et c'était dans Matthieu 4, 4 qu'on l'avait vu, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et quand on se souvient dans Jean que Jésus est la parole, Jésus est en train de dire « Non seulement je suis celui qui rassasie, mais je suis suffisant, je suffis. » C'est ça la traduction qu'on doit en faire dans nos vies aujourd'hui. Jésus est suffisant. La parole est suffisante. On a dit tout à l'heure que la parole, c'était une autorité qui était supérieure à toutes les autres, mais là, elle est en train aussi de nous dire qu'elle est complètement suffisante pour nous. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas lire d'autres choses à côté, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me nourrir de musique, d'échanger ensemble, de nous retrouver, de pratiquer la communauté. Toutes ces choses-là, elles sont incroyablement bonnes, mais j'ai envie de dire que même s'il n'y avait pas tout ça, même s'il n'y avait plus rien, Jésus est suffisant. Et quand bien même je serais dans le dénuement le plus total, Jésus est suffisant. Et quand bien même je serais malade, Jésus est suffisant. Et quand bien même je serais sur un lit de mort, Jésus est suffisant. Et quand bien même je subirais l'injustice dans cette vie, Jésus est suffisant. Et c'est ça qu'il est en train de révéler. Il est en train de rappeler encore une fois, parce qu'il l'a dit de plein d'autres manières dans ses chapitres précédents, et il le dira encore, combien tout le concerne, tout passe par lui. Il est au-dessus de toute chose et il est suffisant dans nos vies. Hein, on dit souvent que, et ça c'est la sagesse humaine, tous les chemins mènent à Rome. Et Jésus, il est en train de dire la même chose. Il est en train de dire qu'on ne peut pas faire l'impasse de venir à lui. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire l'impasse de venir à lui pour être rassasié. Il est le chemin. Et donc, on peut se nourrir de beaucoup de choses aujourd'hui. Hein, mais ne soyons pas rassasiés de cette nourriture-là qui n'est pas Jésus et qui n'est pas la parole, s'il vous plaît. Ne soyons pas rassasiés de messages sur Internet. Ne soyons pas juste rassasiés de notre communauté. Ne soyons pas juste rassasiés de bons moments de louange. Ne soyons pas rassasiés de ces choses-là, les amis. Soyons rassasiés quand nous ouvrons la parole de Dieu et quand nous plongeons nos cœurs dedans. Soyons rassasiés quand nous passons du temps avec notre Père, avec Jésus, par son Esprit. Soyons rassasiés par ça, mais ne soyons pas rassasiés par le reste. Prenons ce qu'il y a de bon à prendre. C'est bon de prendre un chocolat, oui, alors prenons des chocolats, mais mangeons aussi. Mangeons. Mangeons de sorte d'être rassasiés. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et ouais, j'ai pas le même retour ici. Hein. Ils sont pas d'accord avec moi ici. Mais de la même manière, j'ai pas la prétention que ce message soit parfait ce matin. Du tout. Et j'ai pas la prétention que ce message puisse rassasier qui que ce soit de la même manière, même si je m'efforce de décrire la parole de Dieu, même si je m'efforce de juste poser ces choses-là sur la parole de Dieu, je sais que ce ne sera pas parfait. Et n'attendons pas d'être rassasiés par ce genre de message. N'attendons pas d'être rassasiés par ce genre de temps. Venons à Christ. C'est vraiment mon exhortation. Venons à Christ. Et c'est l'exhortation que Christ a lancée, finalement, au travers de tout ce qui se passe dans ces chapitres. Donc, Jésus est le pain de vie. Amen. Il est ce pain. Rassasions-nous de lui. Et ce deuxième point, et peut-être ce dernier point de la manière dont Jésus est révélé dans ces passages, c'est quand Jésus discute avec ses disciples dans Matthieu 16 et qu'il leur dit « Qui dit-on que je suis ?» Ah, voilà une bonne question. Qui dit-on que je suis ? Parmi la terre, parmi ce que vous avez entendu, on dit quoi ? Alors certains disent que tu es Jean-Baptiste, l'autre disent que tu es Élie. Ah ben, voilà, il y a des réponses et je pense qu'on ne nous a pas rapporté toutes les réponses des disciples, qui étaient, rappelons-le, pas sur la même longueur d'onde. Mais pour une fois, Pierre, il est sur la même longueur d'onde et Jésus, il le signale justement. Parce que Pierre y répond, Simon Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus reprend la parole et il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Tu étais sur la même longueur d'onde que moi. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Alors si on est d'accord avec ce verset, il faut savoir comment on le lit. Parce qu'on a quoi ? On a Jésus qui est en train de déclarer que l'Église, elle est bâtie sur Pierre. Tu es Pierre et sur ce rocher, je construirai mon Église. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là ? Est-ce que l'Église est bâtie sur Pierre ? Alors, c'est justement l'erreur qu'a fait l'Église catholique en nommant un pape sur la base de ce verset-là. En nommant en fait un intermédiaire entre Dieu et l'Église des croyants. Et c'est justement l'inverse que Dieu il est en train de dire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ni un homme, ni la tradition. Vous me voyez ? Il paraît qu'on ne me voit plus, je vois des petits messages. C'est bon, c'est revenu ou pas ? Bon, c'est pas grave. La voix suffit. Si vous ne me voyez pas, tant pis. Moi, je vous vois. Donc Jésus n'est pas en train de déclarer que Pierre est un intermédiaire. Ouais, mais c'est pareil. C'est bon, c'est revenu ? Vous m'entendez à nouveau ou pas ? Alors, vous vous êtes arrêté à quel endroit ? Quand Jésus rencontre les pharisiens, je crois, c'est ça ? Donc on va reprendre. Alors, donc Jésus rencontre les pharisiens. Bon, je vais reprendre, je ne sais pas où est-ce que vous étiez arrêté à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc Pierre, il vient de déclarer, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, il lui répond, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce rocher, je construirai mon Église. Et on se posait la question, est-ce que Jésus, il est en train de déclarer que l'Église, elle est bâtie sur pierre ? Est-ce que c'est ça que Jésus, il est en train de dire ? Vous m'entendez tous, c'est bon ? Ouais ? Donc Jésus, il n'est pas en train de déclarer que l'Église, elle est bâtie sur pierre. Et ça, c'est l'erreur qu'a fait l'Église catholique par rapport à ce verset, justement, de nommer en fait les clés, ce que tu lis sera lié, ce que tu délies sera délié. Et donc, à cause de l'interprétation, je dirais, tordue de ce passage-là, l'Église catholique a dit, ah, bah alors, il nous faut un Saint-Pierre qui perdure dans le temps. Et donc, à cause de ça, on va nommer un pape, et puis les papes vont se succéder, etc. C'est pas ce qu'on croit, d'accord? Jésus ne démontre absolument pas dans tout le reste de ces passages qu'on a lus jusqu'à présent, de ce matin, même juste ce matin, il n'est pas en train de nous dire qu'il y a un intermédiaire entre lui et l'homme. Il n'y a pas un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Au contraire, il nous invite à nous joindre à lui dans la présence de Dieu. On a accès à sa présence, hein. Donc il n'y a ni homme, ni tradition, ni loi, ni croyance. Il n'y a absolument rien qui peut venir se mettre entre Dieu et moi. Donc dans ce passage, en réalité, il y a un jeu de mots de la part de Jésus qui lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon église. Mais c'est quoi la pierre sur laquelle il bâtit l'église? C'est sur la pierre de la déclaration que Pierre vient de faire. Pierre, il vient de déclarer, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, il dit, ça, c'est un rocher, ça, c'est une pierre, ça, c'est un fondement éternel. Et c'est pas toi qui l'as su, c'est pas ta pensée humaine, ça a été révélé par mon père, parce qu'on était sur la même longueur d'onde à ce moment-là, et sur ce rocher-là, sur ce fondement-là, et sur aucun autre, je bâtirai mon église. Et l'église, elle est donc bâtie sur un seul fondement éternel, c'est le fait que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et ça avait une portée incroyable. Nous, on le lit en tant qu'occidentaux, en tant que chrétiens aujourd'hui, mais à l'époque, Pierre est en train de déclarer de sa bouche que Jésus est le Messie qui est attendu depuis le départ. Que toute l'histoire de l'Ancien Testament est là pour dire ce Messie, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il vient? Et Pierre déclare, tu es le Messie, c'est toi que nous attendions. C'est toi qui es celui qui doit régner sur Israël et instaurer la paix avec Dieu dans l'humanité. Régner sur toute nation. Il est le Messie. Et ça, c'est un fondement incroyable dans l'Église sous nos pas. Donc on n'a aucun autre rocher sous nos pas que Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et encore une fois, ce n'est pas la culture, d'accord? Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas notre sainteté, ce n'est pas notre bâtiment, ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas nos chants. Nos prédications, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui vont être un quelconque fondement sous nos pas. Le seul fondement sous nos pieds, c'est Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il est le seul fondement sur lequel il bâtit son Église. Et ça aussi, c'est important. Parce que non seulement Jésus, il est en train de révéler dans ce passage qu'il est le fondement, il est la fondation, mais en plus de ça, il dit aussi qu'il est le bâtisseur. Il dit qu'il construit. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui fait grandir. Et nous, on est juste là, à son service. Moi, je participe à cette construction ce matin de la même manière que vous avez participé à cette construction, en étant là tous ensemble. Nous sommes simplement des pierres qui participons à l'édifice. Jésus bâtit son Église. Donc il est notre fondement, il est notre bâtisseur. Et on se souvient aussi dans ce passage que c'est lui qui construit son Église. Et que Jésus ne m'aide pas à construire mon église, ou ma communauté, ou le lieu dans lequel on est, ni ma famille non plus. Ça, tout ça lui appartient. Et c'est son église. Nous sommes son église. Amen. Il est le fondement, il est le bâtisseur, et il est le propriétaire. D'accord? Trois dimensions que Jésus révèle à ce moment-là. Tout est de lui, par lui et pour lui. Ça prend son sens dans ce passage de Matthieu. Et moi, je crois que ce n'est pas un hasard si Matthieu 17, il suit Matthieu 16. Ça c'est beau, hein, comme révélation. Hein, vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin, quand même, hein, moi, je crois. Hein. Ce n'est pas un hasard si Matthieu 17, il suit Matthieu 16. Pourquoi? Parce que Matthieu 17, il nous décrit la transfiguration. Et il a plu au Père de révéler Jésus glorifié. Et alors que Jésus, il est juste en train de dire, je suis le Messie, celui qu'on attend, il est venu comme un agneau, Il s'est pas présenté à Israël justement comme ce roi glorieux. Il s'est présenté comme un agneau doux qui a été mené à l'abattoir. Mais il a plu au Père de manifester combien ce Jésus, combien cet agneau humble, il était glorieux. Et voilà pourquoi on a la transfiguration derrière cette déclaration puissante de Jésus qu'il est le fondement, qu'il est le bâtisseur et qu'il est le propriétaire. Le Père, de la même manière qu'au moment, au moment du baptême de Jésus, de la même manière, le Père ouvre les cieux et dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Il est mon Fils bien-aimé. Et Jésus a un corps glorifié. Il est révélé dans sa gloire. Il n'est pas simplement révélé dans son humilité, dans son amour, dans sa douceur, même s'il continue d'être tout ça. Et donc le Père, il vient confirmer ce que Jésus annonce. Donc voilà, ce matin, tout ce que Jésus dit de lui dans ces quatre chapitres, tout ce que Matthieu révèle de Jésus au travers des quatre chapitres qu'on vient de lire, vous voyez que c'est extrêmement riche, qui aurait de quoi creuser davantage et que voilà, forcément, il y a des choses sur lesquelles je suis passé beaucoup plus rapidement. Mais j'ai envie de conclure ce message ce matin en disant, et nous dans tout ça? Et nous dans tout ça, parce qu'il en est question dans ces chapitres-là. Et Jésus, c'est peut-être ça dont on doit se souvenir ce matin. Il nous invite à rejoindre la même longueur d'onde que lui. D'accord? Là, on vient de passer dans quelques chapitres comment Jésus est révélé ce matin. Et puis, quelque part, Jésus, il a envie de nous inviter à dire, mais venez sur cette même longueur d'onde, ne soyez pas déconnectés. Dans Matthieu 16, il nous dit quelque chose de surprenant. Matthieu 16, 24 et 25, il nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et Jésus, il nous fait une invitation qui n'est pas très marketing, qui n'est pas très sexy là. Il n'est pas en train de dire, alors que c'est ce qui va se passer après, hein, je vais tout accomplir à la croix et au travers de moi, vous n'aurez plus qu'à venir. Il est en train de dire, porte ta croix. Et suis-moi. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'aimerais juste le mettre en lumière d'autres choses qu'on retrouve dans d'autres textes, notamment des textes de Paul aussi, mais plus largement qu'on retrouve un peu dans l'ensemble du Nouveau Testament et qui avait été préfiguré dans l'Ancien également. Le fait que Christ a tout accompli à la croix. C'est-à-dire que le fait que moi, je vais porter ma croix, je ne vais pas ajouter quelque chose à la croix de Christ. Christ a déjà tout accompli là, et c'est important de poser ça. Mais de nous souvenir aussi que Jésus nous a arrachés au royaume des ténèbres et il nous a plantés dans le royaume de son Fils. Farid en a reparlé ce matin, et c'est une réalité, et c'est quelque chose qui est accompli. Jésus nous a arrachés, il nous a plantés. Mais il nous est dit aussi, et c'est Paul qui nous le rappelle, que nous devons mourir et renaître quelque part, hein, que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres pour revêtir les armes de la lumière. Donc nous avons aussi quelque chose à faire. Et j'ai envie de dire ce matin que, au travers de ce texte-là, Jésus est en train de dire que nous avons une responsabilité sur le chemin que nous choisissons de suivre. Que ce n'est pas quelque chose qui se fait en automatique, tout seul. Jésus n'a pas accompli quelque chose qui fait de moi un robot qui va le suivre de manière automatique. Quel est le chemin que je choisis de suivre? Est-ce que je choisis de suivre ce chemin-là pour me mettre sur la même longueur d'onde que lui? Ou pas? Et Christ, il nous dit, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, donc c'est à lui qu'on doit venir. Et juste nous souvenir aussi qu'on n'est pas plus grand que lui. Jésus, il a souffert. Et alors oui, ben, il y aura peut-être des souffrances, il y aura peut-être des moqueries, il y aura peut-être des calomnies, des humiliations qui nous attendent. Mais nous devons marcher dans les pas de Jésus. Et il y aura peut-être des frustrations de certaines de nos attentes humaines ou pas. Il y aura peut-être des sacrifices nécessaires de notre part ou pas. Mais quand bien même il y aurait tout ça, Jésus nous invite à prendre notre croix et à choisir le chemin sur lequel nous voulons marcher. Et vous savez quoi? Quand Jésus dit ça, il est aussi en train d'exhorter ses disciples sur le fait que on savait pertinemment où allait celui qui portait une croix. Et si à l'époque romaine, on voyait quelqu'un qui marchait dans une rue en train de porter sa propre croix, ou quelqu'un qui portait sa croix pour lui derrière, mais généralement c'est lui qui la portait, On savait où allait cette personne-là. Il n'y avait pas d'équivoque possible. Il n'y avait aucun doute possible. C'était presque affiché en gros, avec un gros écriteau, je vais aller me faire crucifier pour mes fautes. Je vais aller mourir. Je subis ma condamnation. Je suis sur ce chemin-là, ce qu'on appelle le chemin de croix, souvent aujourd'hui d'ailleurs, ce chemin qui mène jusqu'à l'endroit où il y a la croix et où je vais être mis à mort, où ma sentence va tomber. Et donc il n'y a pas d'équivoque possible quant à celui qui porte une croix, quelle est sa destination? Et je crois que ça nous challenge avec cette question-là. Est-ce que c'est évident pour tout le monde autour de moi aujourd'hui que je porte ma croix? Est-ce que c'est évident pour tout le monde quand on me voit que je suis un disciple de Christ? Et je ne suis pas en train de remuer, de dire, tu vois, là, remets-toi en question parce que ce n'est pas bien. Pas du tout ça. Sentez-vous vraiment pas accusé du tout, mais juste challengé parce que je me challenge moi aussi en premier. Est-ce que c'est évident dans ma marche de tous les jours que les gens disent, mais bien sûr, il est en train de porter une croix, je sais exactement où il va? Eh bien, honnêtement, les amis, dans ma vie personnelle, j'ai envie de dire pas toujours. Clairement pas toujours. Et peut-être pas assez. Et il le faudrait davantage. Ne pas avoir honte de l'évangile. Démontrer sa puissance. Oser affirmer ce en quoi nous croyons. Oser témoigner de son amour, de sa grâce. Oser témoigner de ce fondement incroyable qui est sous nos pas. Et je relis 1 Corinthiens 18, 25. 1 Corinthiens 1. Qui dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors souvenons-nous de ça. Si je crois ce que dit la parole, si je crois que ce que dit la parole est vrai, alors ça doit avoir un impact. Même si ça me paraît fou, même si ça me paraît difficile, c'est le chemin que je dois choisir de porter cette croix et d'annoncer au monde où est-ce que je vais. Parce que le Père, il a choisi une apparente défaite pour remporter une victoire éternelle sur Satan. Alors même si les choses aujourd'hui, elles nous paraissent folles, incompréhensibles, j'ai envie de dire, gardons la foi, les amis. Gardons la foi en Dieu. Gardons la foi dans le fait qu'il est le maître absolu de toute l'histoire. Même si aujourd'hui, on a le sentiment que nos lois nous contraignent dans notre capacité à nous rassembler, souvenons-nous que Dieu reste maître de l'histoire, y compris pendant ces temps que nous traversons. Il est le maître absolu de toute l'histoire. Alors, je nous laisse avec ces trois choses. Recherchons l'intimité de la présence du Père. Soumettons nos vies à sa parole et laissons-nous conduire par son esprit, comme Jésus nous l'a montré pendant ces quatre chapitres. Et alors qu'on marche à la suite de Christ, qu'on marche sur cette même longueur d'onde avec lui, je vous garantis, les amis, que Dieu va continuer au travers de chacun de nous d'étonner le monde par ses merveilles et par ses miracles. Amen.